Bonjour à tous. Je suis content d'accueillir aujourd'hui devant les caméras de la librairie Mola Bernard Vouilloux, professeur des universités émérites à la Sorbonne, un spécialiste des lettres françaises contemporaines, à qui on doit deux livres, notamment sur Julien Gracq, qui est un de nos sujets du jour. Et je vais les citer d'entrée, La littérature habitable, qui est paru chez Hermann, et De la peinture au texte, l'image dans l'œuvre de Julien Gracq. Voilà. À ce titre, Bernard Vouilloux donc, est un spécialiste de Julien Gracq et il est à l'origine, il va nous expliquer en tout cas pour comment ça s'est passé, d'un livre très étonnant qui vient de paraître chez Gallimard, qui est une correspondance entre André Breton et Julien Gracq. Alors pour nous en parler, et il va nous raconter un peu la genèse de cette aventure éditoriale, sachant que pour beaucoup de gens, une correspondance de Julien Gracq tient un peu du miracle. Comment ça se fait? Donc il y avait donc des lettres de Julien Gracq, qu'on avait tendance à un peu imaginer n'écrivant que des lettres de notaire, comme on dit. Alors, Bernard Vouilloux, bienvenue, et dites-nous un peu d'où est né ce projet de correspondance et comment il est advenu.
Oui, alors bonjour tout d'abord, et très heureux de vous retrouver après tant d'années, n'est-ce pas ? Nous avons souvent eu l'occasion d'échanger autour de livres et, dans mon souvenir, jamais de Gracq. Il est vrai que je ne me présenterai pas comme un spécialiste de Gracq. Les textes que vous avez cités ont connu une première publication dans les années 1980. Je n'y suis pas revenu depuis. Je suis passé à bien d'autres choses. Et c'est effectivement le hasard qui a présidé à l'édition de cette correspondance. C'est Henri Béard qui était chargé de l'éditer aux éditions Gallimard. Et puis, il a éprouvé la nécessité, c'est un grand spécialiste, comme vous savez, du surréalisme, de Breton, mais aussi de Tzara et du mouvement Dada. Et il a éprouvé le besoin de s'associer quelqu'un qui ne connaissait pas trop mal l'œuvre de Gracq. Il m'a donc fait parvenir les transcriptions qui étaient en sa possession, des lettres de Breton et de Gracq, mais des transcriptions incomplètes dans la mesure où, pour Gracq, il manquait les enveloppes, absolument essentielles pour la datation. Et de plus, toutes les lettres de Gracq à Breton n'avait pas été transcrite. J'ai donc commencé à travailler avant d'être adoubé en quelque sorte par les deux ayants droit et par l'éditeur commercial à travailler sur ces éléments. Je dois dire que j'ai perdu beaucoup de temps déjà à manœuvrer le fichier PDF qu'Henri Béard m'avait envoyé pour en faire quelque chose d'utilisable. Et au fil des semaines, des mois, Henri Béard a manifesté le souhait de se retirer pour des raisons de santé. Et il a été convenu entre nous donc que j'assurerai la suite. Et la suite a consisté tout d'abord à vérifier les transcriptions dans la mesure où l'éditeur et moi, Andrea Guiducci, pour ne pas le nommer, aux éditions Gallimard, avions décidé de conserver à la correspondance son aspect brut. Correspondance, c'est un médium chaud, hein, c'est comme le journal, et nous trouvions qu'il y avait quelque artifice à la lisser en intervenant sur certaines graphies, sur la ponctuation. Donc, c'est pas, loin s'en faut, une transcription, comme on dit, diplomatique, hein, mais c'est une transcription qui préserve un certain nombre de traits d'une correspondance écrite à vif, surtout, je dirais, pour ce qui est des lettres de Gracq, parce que Gracq n'est pas un épistolier comme les Bretons. Breton appartient à une génération, c'est celle de Pollan aussi, qui est une génération de grands épistoliers, Gide, Claudel, enfin, qui sont plus âgés qu'eux, sont également de grands épistoliers. Ce n'est pas le cas de Gracq. Gracq lui-même, d'ailleurs, quand on lui demande ce qu'il pense de la correspondance qu'il a eue avec avec Breton, a dit que pour ce qui concernait ses propres lettres, c'était effectivement, il employait cette expression, des lettres de notaire. Bon. Alors, donc j'ai travaillé sur cette correspondance dans cette perspective-là, essayer d'être le plus fidèle possible à son aspect, à son aspect brut. Et je me suis vite rendu compte que sur cet intervalle de 27 années, hein, presque 30 ans, que dure la correspondance, il n'y avait que, au total, une centaine de lettres.
Oui, ce qui est très peu. Hein, quand même.
Voilà, c'est très peu. 60 du côté de Gracq, une quarantaine du côté de Breton, et je précise, tout support confondu.
Oui, il y a des cartes postales.
Il y a des cartes postales. Et il y a aussi, ce qui est pour beaucoup de lecteurs aujourd'hui de véritables antiquités, des télégrammes, des pneumatiques. Hein. Il y a aussi, alors, de la part de Breton, des cartons d'invitation avec simplement un ajout manuscrit. Donc il y a des trous dans cette correspondance. Le plus important, le plus long, c'est celui qui s'étend entre le 8 mai 1940, dernière lettre de Gracq à Breton, jusqu'au 1er novembre 1944, carte-lettre de Gracq à Breton, carte-lettre qu'il envoie à Monsieur André Breton, Radio New York. New York.
Oui, c'est une sorte de bouteille à la mer.
On comprend que j'aurais beaucoup voulu faire reproduire, d'ailleurs, le recto de cette carte-lettre. On comprend qu'elle ne soit parvenue à son destinataire que plusieurs mois plus tard. Et il en est allé de même, d'ailleurs, au passage, pour une autre lettre que Gracq envoie en 1946 ou 1947 à Breton, Monsieur André Breton, Place Blanche, Paris.
Oui.
D'accord. Alors, elle a été mise au rebut, hein, et donc elle a été renvoyée à son expéditeur. Bon, donc il y a des lacunes, ce qui ne veut pas dire que c'était une relation à éclipse entre eux. La tonalité même des lettres ne va pas dans cette direction. En outre, il ne faut pas oublier que ils se voient, ils se rencontrent. Avant la guerre ou pendant la drôle de guerre, il y a déjà deux rencontres. Il y a celle du 18 août à Nantes, et il y en a une autre début octobre, lorsque Gracq est en route vers son régiment, qui lui-même, son régiment est en marche en Lorraine. Il fait escale, étape à Paris, et il rencontre Breton et quelques autres.
C'est pas une correspondance éthérée entre des gens qui ne se connaissent pas, c'est pas
non.
Gens qui se pratiquent, qui s'échangent,
absolument.
Ils parlent souvent de se voir.
Alors, absolument, ils parlent souvent de se voir. Cela ne deviendra vraiment possible après la guerre qu'à partir du moment où Breton rentrera en France. Il rentre en France fin mai 1946. À ce moment-là, Gracq est au terme de ses années d'assistanat à la faculté de Caen. Il a été effectivement nommé assistant temporaire en géographie grâce à son patron de thèse, Emmanuel de Martonne. Il termine donc sa mission à Caen, et puis il a omis de demander son retour dans l'enseignement secondaire, si bien que une proposition va lui être faite pour intégrer le lycée Claude Bernard à Paris en janvier 1947, poste dans lequel il restera jusqu'à son départ à la retraite en 1970. Donc de 1947 à 1970, même si au début Gracq loge à l'hôtel, il ne tarde pas à prendre un studio dans le quartier de Montparnasse, puis ensuite à acquérir un petit appartement rue de Grenelle. Dès lors, les rencontres deviennent beaucoup plus faciles. Dans un de ses entretiens, Gracq dit à Breton qu'il se rencontre 5 à 6 fois par an.
Oui,
et puis, il y a le téléphone. Même si Gracq n'est pas à l'aise avec ce moyen de communication.
Oui, il le dit même. Hein, j'ai du mal à me décider à téléphoner.
Ah oui, absolument. Voilà. Absolument. Mais enfin, comment dire, dans ces semaines, ces mois où ils ne s'écrivent pas, il y a ces deux autres moyens de communication.
Alors, revenons au début, en quelque sorte.
Oui.
Le début de cette correspondance, elle va mettre ensemble deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes statuts à l'époque. Nous avons André Breton, qui est né en 1896. Nous avons Julien Gracq, qui est son cadet de 14 ans, 1910. Mmh. Donc, ils ne sont pas très éloignés, mais malgré tout, il y a une vraie génération d'écart. Et puis, il y a eu la guerre, la première guerre. Alors, comment vont-ils entrer en contact? Quel est le point de bien entendu, c'est la littérature, mais comment va se faire le lien entre ces deux hommes qui, a priori, ne vivent pas du tout dans les mêmes cercles?
Oui, alors...
Malgré José Corti.
Tout se joue là, je dirais. Parce que, déjà, on peut le dire... leur personnalité ne laisse pas présager qu'un jour ou l'autre, une relation puisse s'établir et se développer entre eux. Breton est un sorte de dominant. Il a souvent été comparé à un lion. C'est le chef du groupe surréaliste. Son autorité est incontestée. Sa réputation est considérable dans les années 1920-1930. Les nombreuses exclusions qu'il a prononcées montrent qu'il ne badine pas avec certains principes.
Avec son autorité, c'est lui qui décide.
Voilà, absolument. Alors, cela donne lieu d'ailleurs à beaucoup de contestations. Bien. Mais je dirais que son humeur peut être... À la fin des années 30, ça sombrit du fait des ruptures avec, avec des compagnons de route aussi importants que d'abord Aragon, qui a rompu assez tôt, et puis ensuite Paul Éluard. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et Gracq, de son côté, est un solitaire. On peut dire que ce n'est pas un homme de groupe, ça c'est sûr. Ce n'est pas un homme de mouvement, d'école, encore moins. Et même, je dirais que socialement, son module, c'est celui plutôt du face-à-face. Voilà, face-à-face avec André-Pierre de Mandiargues. Il y a une émission littéraire qui a été enregistrée qui est disponible sur les archives de l'INA, où on le voit, ils étaient très proches, Mandiargues et lui, où on les voit échanger sur la poésie, le style de la prose de Breton. Bon. Donc il y a déjà cette carte de personnalité. Puis alors, bien entendu, Breton est l'auteur de nombreux livres, en particulier de ces livres que Gracq a découvert lorsqu'il était en Cagne, au tout début des années 30. Le premier manifeste du surréalisme, Nadja, entre autres. Et il a toujours, par la suite, affirmé sa préférence pour cette première période, pour... le Breton surréaliste du premier G, en quelque sorte. Et il en a témoigné déjà dans la vie au lecteur d'Au Château d'Argol. Alors, où en est Gracq exactement avant le début de cette correspondance? Eh bien, après avoir été reçu à l'agrégation d'histoire-géographie, option géographie, elle a été très tôt affirmée comme son domaine de prédilection. Il a déposé un sujet de thèse sur la géographie physique de la Crimée, sous la direction d'Emmanuel de Martonne, précisément, grand spécialiste de géographie enseignant à la Sorbonne. C'était en 1936. Pendant cette année-là, d'ailleurs, Gracq se met aux Russes, dans la perspective d'un voyage sur place en Crimée.
D'autant qu'il est membre du Parti communiste.
Alors, c'est effectivement à la fin de cette année 1936 qu'il prend sa carte, peut-être aussi dans l'espoir que ça facilitera ses déplacements en URSS. Et il est nommé au terme de cette année 36-37 au lycée de Quimper. Et c'est... pendant les deux premiers mois de son installation à Quimper, qui termine le récit qu'il a commencé, au château d'Argol, qui est refusé par les éditions de la NRF, et que José Corti, en 1938, accepte avec enthousiasme, moyennant une participation financière de Lucien Poirier. Hein,
à l'époque, c'est du compte d'auteur, mais voilà.
Voilà, absolument. Bon, c'était dû véritablement à la crise que traversait l'édition à ce moment-là. Hein. Ce sont les répercussions un peu tardives en France du grand krach de 1929. D'autant plus que les éditions surréalistes de José Corti sont une petite structure éditoriale
qui n'enrichit pas vraiment,
qui édite à petit nombre. Voilà, voilà. Et donc le livre est achevé d'imprimer fin décembre 1938 et bien entendu, Breton, qui fréquente régulièrement la librairie Corti, qui est à ce moment-là près de la place de Clichy, remarque le livre de Gracq et Corti lui apporte quelques précisions sur l'auteur en lui disant, vous savez, c'est un jeune homme assez réservé, hein, il a 29 ans à ce moment-là, Gracq. C'est un jeune homme assez réservé et qui se tient un peu à l'écart de tout. Voilà. Effectivement, Gracq, pendant son temps à Quimper, entre autres occupations, celle du cercle d'échecs dont il s'occupe. C'est un joueur...
C'est la passion de sa vie, hein, les échecs.
Oui, et cela le restera. Et puis, d'autre part, il est secrétaire de la cellule du Parti communiste à Quimper. Et à ce titre-là, donc, il s'occupe de la feuille qui est tirée à ce moment-là. Pour nous, c'est très exotique d'imaginer un Gracq tractant à la sortie des entrepôts et des usines. Mais enfin, ça existait. Bien. Et donc, comment dire, Corti fait savoir à Gracq que Breton serait très heureux, parce que Breton est un bibliophile, d'avoir un exemplaire avec envoi autographe d'au château d'Argol. Et comment dire, Gracq, qui dans l'avis au lecteur qui précède au château d'Argol, a dit tout ce qu'il devait au surréalisme en son émergence, hein, c'est ce surréalisme-là des départs sans arrivée certaine qui l'intéresse. Gracq donc répond au vœu qui lui a été transmis et reçoit, alors qu'il est à l'hôtel du Parc à Quimper, qui est son point de chute lorsqu'il est dans cette ville, la lettre que lui a envoyée le 13 mai Breton. Breton est alors sur la rive droite du Rhône, côté de l'Ain,
dans le Bugey, cher à Gestrup,
faisant face donc de l'autre côté à la chaîne jurassique, hein, qui vient de loin du nord, en Savoie. Très bel endroit que je connais, hein,
au milieu,
un attage, dans une très belle demeure que l'on appelle la Balle Château, hein, château de Chemillieu, qui a été loué, je connais descendant des propriétaires, hein, qui m'ont confirmé la chose, qui a été loué pour l'été par Gordon Unsufford, un Anglais qui vient d'adhérer au surréalisme, un peintre, et qui y a invité... non seulement Breton, sa femme Jacqueline et leur fille Aube, mais aussi Roberto Matta, Yves Tanguy, Kai Sedge, etc. Et toute cette petite compagnie forme une sorte de phalanstère fourriériste, hein, vacant à ses occupations propres. On écrit et on peint ou on dessine chacun de son côté. Et par ailleurs, on se retrouve pour monter des petits spectacles ou participer à des jeux surréalistes. Voilà donc l'ambiance en cette année 1939, pleine de sombres présages et qui vont être confirmés par la suite des événements. Et donc, voilà, il faudrait peut-être que je donne, parce qu'elles sont extraordinaires, lecture du début de chacune de ces deux lettres,
oui. Hein,
si vous êtes bien d'accord. Parce que effectivement, ça fixe comme une clé musicale la tonalité de cette correspondance. Donc, Breton à Grac, le 13 mai 1939, Monsieur, je vous dois deux immenses plaisirs. J'ai lu d'un seul trait, sans pouvoir une seconde m'en détacher, au château d'Argol. Et votre livre m'a laissé sous l'impression d'une communication d'un ordre absolument essentiel. Il a pour moi tous les caractères d'un événement indéfiniment attendu. Et depuis mon premier contact avec lui, je n'ai cessé de lui découvrir des prolongements bouleversants dans la sphère de mon émotion, de réagir à travers lui comme à travers une façon de sentir, de penser bien plus riche que celle dont je disposais. Vous avez là, de plus, un très bel exemple de la prose somptueuse d'André Breton. Et voici le début de la réponse de Grac, 18 mai 1939. Monsieur, j'ai attendu que vous m'écriviez depuis que je vous ai envoyé ce livre et votre lettre me cause une grande émotion, quoique je ne puisse absolument y voir, en plus d'un endroit, qu'un effet de votre grande politesse. Les défauts de mon livre me sont plus visibles qu'à quiconque. Votre jugement m'importait plus que tout autre, mais je le redoutais, je ne sais pourquoi, et je n'ai pas osé vous envoyer le livre avant d'avoir su par M. Corti que vous lui portiez quelque intérêt. Alors, dans ces lignes, de part et d'autre, on apprend beaucoup de choses. D'une part, ce qui fascine Breton dans ce livre, c'est ce que Grac fait du mythe du Graal. Ça rejoint des préoccupations, les mythes celtiques en particulier, de Breton, qui, comme vous le savez, rejette l'héritage gréco-latin. Et cette veine, qui d'ailleurs peut côtoyer son attirance pour l'occultisme.
Oui, l'hermétisme, c'est...
Absolument.
Il a presque basculé dans cette...
Et ça va s'accentuer.
Oui.
Le signe, c'est évidemment Arcane 17, mmh. Qu'il écrit en 1944. Ça va s'accentuer par la suite. C'est bien d'ailleurs qu'après la guerre, un certain nombre de surréalistes feront dissidence parce qu'ils trouvent que, effectivement, les préoccupations suprarationnelles, on est un peu loin de là.
Le pape du surréalisme s'éloigne
du premier surréalisme. Et de l'autre côté, Grac se voit promu ainsi. Comme une sorte de mage. Mmh. Les mots de Breton sont forts. Breton, dans la suite de sa lettre, laisse entendre qu'il attend de Grac des révélations.
Oui, il lui met d'entrée. D'entrée, c'est très fort. Quoi.
Absolument.
J'attends beaucoup de vous.
Et cela se confirmera du reste... avec l'enthousiasme qu'il manifeste à la lecture du Roi Pêcheur, qui paraît en livre en 1948, et qui est joué, donné sur la scène, avec une réception d'ailleurs critique...
assez catastrophique, on peut le dire.
Catastrophique, oui. Absolument, oui. En 1949. Et Breton est un lecteur comme un spectateur enthousiaste de cette pièce, sur laquelle il revient assez constamment. Mais si Grac avait quelque appréhension, c'était non seulement en raison de la stature de Breton, penser avoir sous les yeux une lettre de celui dont on a lu dans la ferveur les textes parus près d'une vingtaine d'années plus tôt, c'est déjà quelque chose de très important. Et comme lecteur du premier manifeste, Gracq ne pouvait pas ignorer les réticences de Breton à l'égard de la fiction,
oui,
du roman. Du reste, au château d'Argol, a pour sous-titre générique récit.
Oui, hein, il faut, on évite le mot bourgeois de roman.
Absolument, absolument. Mais enfin, c'est toujours, je dirais, avec crainte et tremblement que par la suite, Gracq adressera ses livres qui relèvent à l'art de la veine fictionnelle, voire romanesque, Un beau ténébreux, en 45, Le rivage...
Ah, il est très précautionneux avec Le rivage des cires, hein, en lui disant qu'il ne va pas, en lui annonçant qu'il ne va pas aimer.
Il prend beaucoup de précautions, oui. Parce qu'encore, dans un beau ténébreux, on peut voir un jeu autour, comment dire, autour du hasard, hein, du qui tout double, en quelque sorte, qui met en jeu la vie. Et puis, il y aura un balcon forêt, exemplaire qui remet d'ailleurs en main propre à Saint-Cyr-la-Popie en août 1958, lorsque Gracq se rend là-bas pour voir Nora Mitrani qui passe sa convalescence après un accident de voiture. Bon, donc il y aura toujours cette crainte, hein, des réactions de Breton à la lecture des romans qu'il lui envoie. Ils n'ont pas de même, évidemment, pour ses essais, hein, ou ses poèmes. Poèmes de liberté grande, la littérature à l'estomac, qui est un pamphlet, les différentes préfaces recueillies dans Préférences, en particulier celle sur Chateaubriand, qui plaît beaucoup à Breton.
Donc il y a un rapport avec Gracq, se retrouve en face du prince du surréalisme, très impressionnant. Et on a le sentiment que Breton veut l'attirer vers lui, hein, très vite, très très vite, il lui dit participer à la revue, il lui parle du Minotaure. Oui. Et alors très tôt s'installe chez Gracq une sorte d'assurance pour dire je ne veux pas en être. Malgré sa modestie, son effacement, il a quand même une qualité qui est je ne veux pas dévoyer quoi que ce soit, je ne me suis pas membre d'un groupe. Alors quel est son rapport avec ce surréalisme qui doit un peu l'inquiéter aussi dans la mesure
alors, écoutez, il y a un indice très 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 clair. C'est le sous-titre de son livre sur André Breton, André Breton, quelques aspects de l'écrivain. C'est, comment dire, non tant le surréalisme que ce qu'il y a de surréalisme en Breton qui a attiré Gracq. C'est-à-dire un passage par la langue. Et ce sera d'ailleurs... Là, si vous voulez... On perçoit la véritable ligne de fracture qu'il peut y avoir entre Gracq et Breton. Breton met en haut de tout la poésie et il lui sublime la peinture. Il n'apprécie pas la peinture en tant que métier, en tant que technique, mais en tant qu'elle relève de l'activité poétique, qu'elle est poésie. Cela, c'est le surréalisme et la peinture, hein, qui le met en place dès 1928. Alors que Gracq pense littérature. Il pense littérature, et cette littérature, il l'apprend depuis son essor avec les romantiques allemands, préface à Henri de Stardingen de Novalis, traduction de Kleist, qu'il effectue d'ailleurs à partir d'une première traduction littérale. Hein, il n'est pas
sans être germaniste,
véritablement. Il n'est pas germaniste. Il est très tourné en tous les cas vers la sphère germaniste, comme
Wagner. C'est un grand amateur de Wagner.
Pour Wagner, et en particulier pour Parsifal,
voilà, ce qui est assez...
On retrouve le gras. Ouais. Alors que Breton est absolument hermétique à la musique.
Oui, hein. Que parfois, il envoie sa femme au concert avec Gracq.
Alors, absolument, parce que Elisa, voilà. Claro, Elisa Breton, elle est très mélomane, et elle et Gracq s'échangent des informations sur tel le disque qui vient de sortir, ou vont ensemble à des concerts.
Hein, ils parlent de Dipus Rex, à un moment, ils vont ensemble, absolument. Ça a l'air de l'avoir marqué. marqué.
Absolument. Voilà. Avec effectivement la musique de Stravinsky.
Cocteau aussi, qui est quand même un autre
problème. Voilà. Grac est très très réservé sur les décors de Cocteau, mais ça, ce n'est pas nouveau.
Toute la correspondance, on égratigne Cocteau dès qu'on peut.
Ah oui, oui, oui. Voilà. Et ça commence, ça commence assez tôt, hein, dès les premiers mois.
On a quelques détestations communes quand même.
Voilà. Voilà, et oui, tout à fait. Et cela se retrouve au moment où certains s'avisent de promouvoir Cocteau, prince des poètes.
Ah, ce qui nous fait assez rire maintenant, de voir qu'on élisait un prince des poètes et que ça avait l'air, ça crée comme des remous assez intenses.
Il y a des noms,
des scandales, oui.
Celui de Saint John Perse qui a obtenu le prix Nobel de littérature, notamment, est avancé. On sent bien que Breton
ne dédaignerait pas avoir voilà, ce titre,
ne le refuserait pas.
Alors que Grac, lui, au contraire, a l'air de trouver ça assez vain et assez sans trop poser le billet.
Écoutez,
quand même.
Les honneurs. Vous trouvez dans les lettres qu'il écrit même avant leur première rencontre des formules qui en disent long sur son mépris de la vie littéraire, de ses courses de jockey, dit-il. Et c'est la ligne qu'il adoptera hein, sur un ton assez virulent dans la littérature à l'estomac.
Mais qui peut être, on le sent dans quelques lignes là, quand même vous le dites, c'est que la littérature à l'estomac est aussi le résultat de l'échec du roi pêcheur.
Alors,
il en a voulu beaucoup aux critiques. Curieusement, il n'attaque pas dans la littérature à l'estomac les
oui,
critiques.
Oui, mais
ce n'est
pas la seule cause. Perceptible, je vous le dis, dans les débuts de cette correspondance, une défiance à l'égard de ce qui est la vie sociale de la littérature, ce qu'on appelle la vie littéraire.
Oui.
Et c'est pourquoi j'insistais sur les différences de tempérament hein, entre les deux hommes. Breton est un fédérateur d'énergie.
Hein, il veut transformer le monde, hein, il dit. Il veut transformer le monde. Hein,
c'est absolument.
Ça, et tout le
absolument,
temps.
Hein, c'est la fameuse formule qu'il lance en reprenant à la fois Rimbaud, hein, changer la vie, et Marx, transformer le monde à la fin d'une intervention au Congrès de 1935, je crois. Et nous parlions de ces tentatives de Breton pour rattacher Grac au surréalisme. Alors effectivement, ça commence très tôt. Hein. Alors même que Corti a mis en garde Breton, lui a dit, vous verrez, fait comprendre que c'était une personnalité qui tenait à son indépendance. Cela n'empêche pas que, effectivement, envisageant le numéro apparaître à la rentrée 1939 du Minotaure, Breton aimerait bien obtenir un texte de lui. Puis début août 1939, toujours avant même leur première rencontre à Nantes le 18 août, il lui propose de prendre finalement le poste de rédacteur en chef. D'une revue.
Hein. Oui, il est quand même, c'est une offre. Enfin, ils se connaissent à peine.
Absolument.
Et il le bombarde.
Il veut. Hein. Oui, il veut lui faire jouer un rôle dans sa réponse, qui est un chef-d'œuvre de diplomatie littéraire. Grac énumère tant de conditions qu'il sera impossible finalement de satisfaire en aussi peu de temps. Sur les collaborations, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'accepter tout ce qui le nom de poème pourrait être proposé à la revue et qui comprend des choses tout à fait farfelues, hein, pour reprendre cher à Malraux. Bon, il pose un certain nombre de conditions. Pour ce qui est de la philosophie, il verrait bien de ses condisciples, comme Jean-Hippolyte, grand spécialiste, traducteur de Hegel d'ailleurs, participer à cette revue. Et puis, bien évidemment, le projet ne peut aboutir, puisque la France est entrée en guerre. Et donc, les mois qui vont suivre, de septembre à mai, sont des mois où l'on les voit tous les deux dans des activités militaires qui tournent au ralenti, Alors dans des fonctions différentes, hein, Gracq est lieutenant, Breton médecin auxiliaire, ayant chacun beaucoup de temps pour lire, et il se trouve à travers les lectures qu'il partage. Alors, il est toutefois un peu surprenant de voir Breton, à un moment, proposer un rapprochement, percevoir une sensibilité commune entre le Gracq de Château d'Argol et puis Alphonse de Chateaubriand.
Oui, ça, c'est un moment étonnant. Alors, enfin,
le lecteur en reste, si vous me passez l'expression, comme deux ronds de flanc, oui, parce que personne n'ignore. Enfin, comment l'information a-t-elle pu échapper à Breton que Alphonse de Chateaubriand est plus que compromis avec ceux que l'on appelle les défaitistes avant la guerre, c'est-à-dire qu'il est pro-nazi.
Oui, puis il admirait Hitler, enfin il s'en cachait pas.
Ah, mais oui, oui, absolument. Voilà. Hein, la gerbe, ça a commencé donc à paraître dès 1937. Donc ceci est très étonnant et Gracq, très poliment, hein, fait comprendre que non.
Oui, parce qu'il y a toujours ce côté chez Gracq qui est étonnant, c'est qu'il est précautionneux, il est poli.
Oui.
Il ne le prend jamais de front.
Oui. Hein,
alors que Breton a un côté un peu entier qui fait qu'il lâche des noms. Et l'autre est toujours un peu... Mais en même temps, il est ferme.
Voilà. Oui, mais je dirais que Breton passe à Gracq beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais admises de la part d'autres.
Alors, comment vous l'expliquez?
Alors, ouais. Moi, j'ai trouvé l'explication dans la biographie de Henri Béard. À la toute fin de sa biographie d'André Breton, Béard écrit que les ruptures nombreuses, hein, à l'origine desquelles Breton se trouve, sont dues aux attentes que les jeunes écrivains qu'il a doubés en quelque sorte placés en lui et forcément comment dire ils étaient débiteurs à son égard or c'est et Breton du fait de ce fait là se montrait d'autant plus exigeant si tu veux me rester fidèle il faut que tu en passes par là et par là or au départ de la relation à Gracq la limite a été très tôt. Elle a été annoncée par Corti. Elle a été très tôt tracée par Gracq, qui jamais d'ailleurs ne le fait de manière frontale. On voit comment diplomatiquement hein, il évite le piège de la rédaction en chef d'une revue littéraire et artistique. Et il en ira de même par la suite.
Oui, pour ses engagements, parce que Breton demande de l'engagement.
Mais absolument.
Et Gracq a très tôt dit, je ne veux pas m'engager.
Alors, hein. Gracq ne peut que souscrire à flagrant délit un pamphlet, un texte polémique du moins, dans lequel Breton s'en prend au faux Rimbaud. La chasse spirituelle, un canular monté par deux acteurs, enfin par un acteur, Akaka Viala et Nicolas Bataille, hein, deux acteurs, deux comédiens en fait, oui, mais adoubé par tout de même Pascal Piat et Maurice Saillé,
hein, oui.
Qui sont des personnalités du monde littéraire, du monde de l'édition, autour du Mercure de France. Bon. Breton, avec un flair infaillible, détecte le faux et il énonce tous ses arguments. Alors là, Breton se sent sur son terrain, la chose littéraire, le texte, pas la vie littéraire, mais le texte.
Gracq est à l'aise avec ça, on attaque la littérature.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc là, il applaudit des deux mains. Mais il se tient à l'écart de l'affaire qui éclate.
Oui, la fameuse affaire Pastoureau, c'est ça.
Pastoureau.
Voilà. Dont on entend beaucoup parler, moi que je connaissais assez peu,
oui.
Qui est quand même un des cœurs de la correspondance.
Et alors là, je dirais que cela participe des quelques crises, mais celle-ci est la plus grave, que Breton a traversé depuis son retour en France, les attaques de Zara et du Parti communiste, Zara d'ailleurs qui et très proche du Parti communiste français. Leurs attaques donc contre le surréalisme, hein, nous sommes en 1948, à peu près au même moment, les jeunes surréalistes et plus anciens qui s'émeuvent de la place que prend l'occultisme dans la pensée de Breton. Et puis alors, il y a cette affaire Pastoureau-Carouge.
Oui, à l'origine, c'est l'affaire Carouge qui devient l'affaire Pastoureau.
Voilà, alors, absolument, non, ouais. Absolument, parce que Carouge, qui est proche des Dominicains et qui a écrit un livre sur les sources du surréalisme que Breton a beaucoup apprécié, Carouge est vilipendé par Pastoureau, communiste athée très engagé dans le surréalisme depuis le début des années 1930. L'affaire s'envenime, enfin, je n'entre pas dans les détails. Convocation d'Assemblée générale, émission de communiqués de part et d'autre, de communiqués et de tracts, exclusion de Pastoureau et de Carouge, mais Breton continuera à voir Carouge. Hein, le lien est resté entre eux. Gracq, qui reçoit tous les courriers, se tient à l'écart.
Ce que j'ai mal compris d'ailleurs, c'est qu'il semble être invité à participer au rayon du
surréalisme,
tout en n'étant pas membre du...
Ah non, non. Alors que Mandiargue, oui, oui. Dont j'ai dit qu'il était proche, que lui et Gracq étaient proches, Mandiargue a écrit une très belle lettre au jeune auteur de Château d'Argol en 1939. Hein. Mais Mandiargue, lui, s'est engagé à participer aux réunions du groupe surréaliste, et notamment à préposition lors de l'affaire Pastoureau-Carouge. Gracq reste ferme sur ses positions, alors que effectivement, il reçoit les courriers, mais enfin, il dit très clairement à Breton qu'il ne prendra pas parti dans cette affaire. Oui, mais il faut voir l'épilogue. L'épilogue, il se joue deux mois plus tard dans des lettres échangées entre eux en juin et juillet, et qui marque, selon moi, un véritable tournant dans leur relation, parce que c'est un Breton très affecté par les départs que la crise a précipité, par tout ce qui s'est dit alors à son sujet, sa volonté de pouvoir en particulier. Les masques sont tombés. Breton ouvre les yeux. Il a vieilli, le temps a passé, il est remis en cause, il est fortement ébranlé.
Oui, presque physiquement même.
Hein. Ah oui, ouais. Oui, oui. D'autant plus que, effectivement, dès ces années-là, il commence à ressentir ces difficultés respiratoires qui vont aller s'accentuant au fil des années et qui vont précipiter sa fin. Bon. Et les réponses de Gracq sont admirables. Il y a deux lettres là qu'il faut vraiment lire attentivement. Il fait presque la leçon à Breton. Il dit voilà. Vous accordez trop d'importance, vous consentez trop de votre temps à toutes oui. Ces activités. Vous avez de vrais amis. Il incite Breton, en quelque sorte, à mieux répartir et mieux gérer. Hein, ses affections. Il investit trop dans le groupe. C'est ce qui ressort de ses lettres. Et donc, là, il y a comme le renversement d'un rapport. Vous voyez, je ne dirais pas que c'était un rapport père-fils, non. Mais il peut parler d'égal à égal. De plus, en ces années-là, le nom de Gracq tend à s'imposer. C'est plus seulement à Monsieur Lucien Poirier qu'écrit Breton. Pierre Poirier et Julien
Gracq. Louis
Poirier.
Combine les deux. Mais oui, et puis d'ailleurs, il appelle Julien, d'ailleurs. Oui, il l'appelle cher Julien.
Oui, oui.
Alors c'est ça, c'est autre chose, mais c'est assez curieux.
Ça, c'est autre chose. Ouais. La question des adresses est très intéressante, ouais. Parce qu'elle permet aussi de voir quel est...
Leur degré d'intimité.
Oui, et leur... les libertés qu'ils peuvent prendre par rapport à certaines règles. Bon. Mais la notoriété de Gracq monte dans ces années-là, et je pense qu'il gagne en assurance. Hein. Et en tous les cas, comment dire, il va de plus en plus apparaître aux yeux de Breton comme l'ami de bon conseil, celui qui sait raison garder, ne pas s'emballer, qui ne monte pas dans les tours...
Comment on dit, oui.
au moindre prétexte.
Qui est un peu en dehors.
Enfin, qui arrive sait, à voilà, dehors, qui voilà. sait prendre une distance par rapport aux réalités du moment. Et cela va se vérifier dans la suite. Et je dirais que, oui, je reprends la formule, Breton passe à Gracq des positions qu'il n'aurait pas admises d'autres. Par exemple, Gracq a fait... en 1948, un compte rendu du très sarcastique de la diffusion radiophonique à laquelle ils assistaient oui. avec un petit groupe d'initiés, pour en finir avec le jugement de Dieu, d'Artaud.
D'Artaud, oui, ça c'est... Oui. Assez cinglant.
Ouais. Oui, oui. Et donc, Breton ne réagit pas. Mieux encore. Mais tout cela, c'est pour ça qu'il faut... Je parlais de... des trous, des lacunes dans cette correspondance qui ont justifié que l'introduction soit un peu plus longue que les introductions habituelles et que la notation soit également un peu plus importante.
Parce qu'il faut le signaler quand même, il y a un livre dans le livre, dans ce livre. Hein. C'est-à-dire que les notes infrapaginales occupent une grande place, mais elles doivent expliquer. Enfin, on traverse un siècle, hein, mais avec le nombre de gens qui apparaissent. Enfin, c'est passionnant d'ailleurs.
J'en profite pour dire que non, une correspondance ne se lit pas comme un roman. Ce n'est pas un roman épistolaire. Hein. Un roman épistolaire est autonome, il n'a pas besoin de notes, enfin, au dehors d'une édition critique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des allusions,
il y a des omissions, il y a beaucoup d'ellipses.
Enfin, il y a tout ce qui est dans l'air du temps, si vous voulez, qui peut expliquer certaines tournures de phrases, certaines images qu'il faut expliciter. C'est une archéologie du quotidien, en quelque sorte, hein, à laquelle il faut se livrer. Toujours est-il que Breton lâche dans un de ses mots, au moment où il lance avec Mascolo et Blanchot la revue 14 juillet, nous lançons cette revue qui va connaître trois livraisons.
Une revue anti-gaulliste.
Ah oui, oui,
ça,
oui
carrément.
Hein, on crie 58, au coup d'État.
Voilà, coup d'État, hein, voilà,
au coup d'État, le fascisme est là. Alors là, pour le coup, effectivement, la température monte très, très haut. Hein. Et Gracq est sollicité pour donner son avis. J'ai lu intégralement les réponses qui ont été données à ce questionnaire. Il y a 5 questions.
Oui, qui sont assez cocasses, d'ailleurs. Hein,
mais et les réponses de Gracq sont d'une froide ironie. Contrairement aux autres.
Ah oui, donc, qui ont l'air de s'emporter, alors que lui prend... ça prend un aspect avec de loin qui est assez étonnant, enfin, comme si lui-même avait confiance.
C'est aussi, je dirais, à la fois le recul du géographe qui apprécie les vastes paysages, les vues dégagées, panoramiques, en quelque sorte, et l'historien qu'il est, et qui replace les faits dans la longue durée.
Oui.
Et donc, lui est loin de voir là un danger pour la République. Il reste un républicain, ça, c'est sa conviction profonde. Je dirais plutôt de centre-gauche, hein, je le vois un peu comme ça, car effectivement, précisons que dès qu'il a pris connaissance de la signature du pacte scélérat Molotov-Ribbentrop, le pacte entre le Troisième Reich hitlérien et l'URSS stalinienne, il a rendu sa carte et il a été à tout jamais vacciné des passions politiques. Oui. Alors, il verra Pompidou quand celui-ci accédera à la présidence. Mais pourquoi ? Parce que Kondibi est un ancien condisciple,
voilà,
hein, qui a joué un rôle d'ailleurs dans la diffusion du surréalisme à l'école normale supérieure. C'est à lui que les jeunes normaliens doivent la découverte, notamment de La femme sans tête de Max Ernst. Pompidou étant déjà très porté sur les arts visuels, les arts plastiques.
Alors justement, vous parliez de géographie. C'est quand même c'est ce qui est aussi très étonnant dans cette correspondance. On voyage beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas de sédentaire.
Oui.
Julien Gracq a une image de sédentaire, mais en fait, on se rend compte qu'il se balade pas mal. Moi, j'ai découvert cette histoire de se balader avec sa sœur, Suzanne, en deux chevaux, qu'il annonce comme une voiture confortable. Et ils organisent des choses avec Lucille. On va vous embarquer avec votre femme, André Breton, et vous allez vous balader avec nous. Il y a cet aspect-là aussi très... presque banal, mais il y a cette amitié se nourrit aussi de ces rencontres, de ces voyages qu'ils peuvent faire, qui souvent avortent. Hein, mais il est beaucoup question de géographie, de rapport avec les lieux.
Alors, vous voyez, la formule qui pourrait résumer leur relation, y compris dans ces rendez-vous manqués, hein, c'est tout à la fois ensemble et séparément. C'est une formule magnifique employée par Breton dans la carte postale, dernier élément de la correspondance de son côté, qu'il adresse le 13 mai, si je ne me trompe, 1966, à Gracq. Il est alors en Bretagne, à Nantes, astérisque, et en bas de la carte, où nous sommes soulignés, tout à la fois ensemble et séparément.
Oui, c'est très joli.
Parce que c'est à Nantes qu'a eu lieu leur première rencontre, le 18 août 1939. Et Gracq répond quelques jours plus tard, et c'est la dernière lettre de Gracq à Breton. Très belle lettre également, dans laquelle Gracq parle du paysage nantais. Et ce qui est très troublant d'ailleurs, c'est que sur l'enveloppe, c'est la dernière lettre, hein, nous l'oublions pas, hein, date de mai 66, et Breton meurt le 28 septembre de la même année. Sur l'enveloppe, la souscription, faire suivre s'il y a lieu.
Oui, c'est...
si Breton avait pu avoir conscience de ce hasard objectif, évidemment, c'est assez extraordinaire. Bon, et donc nous parlions
De cette géographie, enfin de celui qui parle beaucoup de lieux.
Oui, hein, il parle beaucoup de lieux.
Gracq est un voyageur, en fait, c'est un vrai
absolument.
Voyageur.
Alors, bon, il y a quelques. Il est allé en Angleterre pendant ses études. Il en a rendu compte d'ailleurs dans un texte publié d'abord dans le Nouveau Commerce, repris dans le premier recueil de Lettrine, je crois bien. Séjour donc en Angleterre. Très, très, très joli texte. Le fameux roi que fait Tua de Burne-Jones, qui joue un rôle important dans la nouvelle qu'il publie dans le recueil de la Presqu'île, est un lointain souvenir hein, de cette époque. Et puis, il va faire des séjours, alors, soit sur invitation, par exemple en Belgique, sur invitation de Suzanne Lillard, à Gand aussi sur invitation de Gaëtan Picon. Ils se connaissent, ils se fréquentent hein, depuis l'après-guerre. En Allemagne, à Heidelberg, où il va prononcer des conférences. Et puis, bon, il se rend en Espagne avec Nora Mitrani. Il se rend au Danemark, d'où il envoie une carte à Breton. Et par ailleurs, il circule beaucoup en France avec sa sœur, effectivement, qui conduit sa sœur, qui est assistante sociale. Et en 1948, eh bien, Breton et lui nourrissent le projet visiter Montségur ensemble.
Voilà, c'est le catharisme, enfin, il y a toujours cette fascination
breton
pour...
Tout à fait. Et en définitive, ils diront chacun de leur, côté. Breton se rend à Montségur, je crois, en 1949, et Gracq en 1956. Et quand, en 1956, donc, Breton se rend à Montségur en 1953 et Gracq en 1956. Et en 1956, quand Breton quand Gracq est à Montségur, eh ben Breton est à très haut Rantac,
oui,
où se trouve l'église du Graal, en forêt
voilà.
de Brocéliande,
voilà. ouais,
hein, toujours ce mythe, où... où Gracq s'était déjà rendu. Bon, enfin, bref, ce qui est important, c'est que il y a des rendez-vous manqués, mais qui montrent encore une fois que ils peuvent être d'accord sur l'essentiel sans forcément, et même dans l'espace géographique, pouvoir se rencontrer factuellement sur tel ou tel aspect. Ça rend bien compte de l'admiration réciproque qu'ils se portent et des liens affectifs qu'il y a entre eux et qui s'avèrent plus profonds en fait que le reste. La seule véritable crise dans leur amitié, c'est lorsque Gracq refuse de signer la pétition constitutive à la condamnation de trois membres du groupe
qui sont
allés violenter.
Voilà. Des histoires assez incroyables. Donc,
voilà.
On a peine à imaginer maintenant des,
mais oui, parce
des gens
que,
qui ont attaqué Perret, donc on va aller lui casser la gueule.
Voilà, voilà. Ils ont traité Perret de planqué. Et donc... trois surréalistes l'ont un peu malmené. L'affaire a été portée devant la justice. Une pétition, évidemment, a été lancée en leur faveur. Et Gracq a refusé de la signer.
Là, il l'a mal pris, là.
Alors que au début des années 60, au moment de l'affaire du Prince des Poètes, à l'été 1960, Breton a quitté le cher Julien Gracq des lettres antérieures pour mon cher Julien.
Oui, ça, on est là, cher Julien.
Hein. Et bien après cette affaire, c'est cher Julien Gracq. Mmh. Le ton. Nous en parlions un peu avant cet entretien. Il faut bien voir que cette glaciation de leur rapport a suivi un pic de haute affectivité au moment de la mort, quelques mois plus tôt, d'Honora Mitrani.
Alors justement, moi, c'est un personnage intéressant
oui.
qui apparaît alors, à la fois en creux
oui.
et sous forme assez pudique, cette femme, en quelque sorte, oui. la femme de la vie de Julien Gracq.
Oui.
On ne sait pas être un auteur parlant d'amour, mais ce personnage apparaît parce qu'elle est proche. Elle est proche de Breton. Elle est surréaliste.
Hein. Absolument.
Alors, parlez-nous un peu d'elle, parce que c'est un des personnages. Il y a même une photo d'elle assez touchante avec Pierre de Mandiargues.
Oui.
Qui était cette femme qui est disparue très, très, très jeune
et... Absolument. Elle a été emportée par un cancer du sein, un cancer foudroyant.
Voilà, à 39 ans, mais oui. qui semble être, je sais pas, le drame de la vie de Gracq. Il en parle quand il remercie Breton qui lui envoie une très belle lettre
oui.
De deuil. Hein,
oui, oui.
Il en parle avec une économie de moyens qui est assez incroyable. Hein. Oui. Il ne s'épanche pas, il emploie le mot très triste.
Oui.
Qui est cette femme alors qu'on voit apparaître?
Alors, elle a adhéré tôt, après la guerre, au surréalisme.
Elle est bulgare d'origine, c'est ça?
Comment?
Elle est bulgare d'origine, je crois.
Oui, absolument.
Ouais.
Elle a fait la connaissance de Breton. Dans ces années-là, elle est la compagne de Hans Bellmer. Elle sert de modèle à Hans Bellmer pour une suite de son grand œuvre dit Poupée, la poupée, dont la revue Minotaur a donné des reproductions, des aperçus hein, photographiques en 1934.
Hans Bellmer, qui est l'auteur du frontispice du livre
oui.
de Julien Gracq en breton, d'ailleurs.
Absolument,
hein. tout à fait. Ce petit monde.
Absolument, connais, ouais. tout à fait. Et comment dire, Gracq a eu l'occasion de rencontrer, alors non pas dans les activités du groupe, bien entendu, Nora Mitrani. Parce que au moment où a été publiée la traduction de la Penthesilée de Kleist, Nora Mitrani a demandé pour l'une des revues du groupe un entretien à Gracq, un entretien qui a été publié. Je crois que c'est en 1954. Et en tous les cas, ils se rapprochent vraiment de l'un de l'autre. Hein. En 1956, et pour la première fois dans la correspondance, le nom de Nora Mitrani apparaît à côté de celui de Gracq au bas d'une carte postale qu'ils adressent à André Breton. Nous sommes là en 1957. Et on n'en saura guère plus, sauf par une carte postale de 1949, de Gracq à Breton, où il fait allusion aux problèmes de santé de Nora Mitrani. Nora, d'ailleurs, qui avait été victime d'un accident de voiture l'année précédente, en 1948, et j'y ai fait 58, pardon, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est en allant la voir à Saint-Cyr-la-Pépie, où elle était en convalescence, que Gracq a remis un exemplaire d'un balcon en forêt à Breton. Alors, voilà, effectivement, Gracq reste extrêmement pudique. Elle n'apparaît jamais dans aucun de ses textes en prose datant de cette période, sauf sous la forme d'une initiale. Et c'est un très beau passage d'ailleurs. Il parle d'une femme qui court sur une plage de l'Atlantique.
Alors, Nora Mitrani, justement, alors, moi, ça a été l'occasion pour moi de redécouvrir dans ma bibliothèque un livre de Nora Mitrani qui a été édité par Joël Losfeld dans sa maison d'édition Le Terrain Vague. Et c'est Julien Gracq qui en a fait la préface.
Absolument.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que la préface est d'une retenue aussi assez incroyable.
Mais oui.
Enfin, pas oui. d'épanchement, rien du tout. Il reste. Oui. Très, très circonspect, c'est assez oui. étonnant de voir que jusqu'au bout, enfin même, ça a été écrit en 88, je crois,
oui.
Oui. cette figure reste là,
oui.
il contribue à la faire éditer, mais il garde toujours ce quant à soi,
absolument.
C'est assez incroyable. Avec, oui. Voilà. Alors pour finir avec Mitrani, parce que je me rends compte qu'Un balcon forêt était adapté au cinéma par le frère.
Par le frère,
absolument. Par Michel Mitrani, qui était le frère de Nora, oui. donc il y a quand même des conjonctions comme ça,
oui.
un peu,
oui.
et je me suis rendu compte de ça un peu plus tard. Voilà. Donc c'est l'univers de Gracq qui se laisse un peu dissimuler. Alors, l'heure tourne, on en parlerait assez longtemps. Il faut quand même laisser le soin au lecteur de découvrir cet aller-retour entre ces deux personnages qu'on semblerait assez peu vivre une amitié telle qu'ils l'ont vécue. Hein. Si vous avez passé beaucoup de temps avec eux, hein, vous rappelez même les dates des lettres, etc. Au final, qu'est-ce que vous retenez, s'il fallait retenir une image de cette amitié, de cet échange, qu'est-ce que vous en avez gardé?
Mais une rencontre tout à fait improbable, surtout, je dirais, de la part d'un homme aussi réservé que Gracq, et qui, en dépit de cette retenue, qui est sa marque propre dans les rapports sociaux, ainsi que le prouvent d'autres correspondances non encore publiées ou des témoignages, laisse transparaître tout de même à l'égard de Breton cette qualité très très particulière. Je n'oublierai pas cet envoi autographe qui signe sur les premières pages de d'André Breton, de son livre sur André Breton, bien après la mort de Breton, il dit « C'est le seul grand homme que j'ai connu dans ma vie. »
C'est une très belle formule. Et on va terminer sur ces deux grands hommes qui se sont rencontrés, et que grâce à vous et Henri Béart, mais surtout grâce à vous, on découvre dans ce livre, dans cette magnifique correspondance éditée chez Gallimard. Merci beaucoup, Bernard Vouilloux.
C'est moi qui vous remercie.